Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc est au chapitre 10. Nous allons voir le récit qui est connu sous le titre du jeune homme riche. C'est un récit qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu et aussi dans l'évangile de Luc. Mais j'ai choisi le récit que nous rapporte Marc. Donc Marc chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Marc 10, verset 17 jusqu'à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements ? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Alors il se peut que ce passage vous laisse parfois perplexe, parce que ici, nous avons une personne qui vient à Jésus pour recevoir, mais elle repart sans avoir reçu. Et en plus, elle repart tout triste. Nous avons l'habitude de dire, viens à Jésus, il te donnera. Tu ne repars jamais à vide. Mais ici, nous avons un rare cas où la personne vient à Jésus, vient pour recevoir, et elle repart en moins bon état que lorsqu'il est arrivé. Il faut croire que ce jeune homme riche soit venu vers Jésus avec un cœur sincère, parce qu'il nous dit que Jésus l'aima. Donc il n'est pas venu comme les pharisiens venaient vers lui, ni comme ceux qui venaient pour lui tendre un piège. Là, il y a toutes les raisons de croire que cet homme était sincère quand il est venu vers Jésus. Et puis en plus, cette question, bon, qui avait déjà été posée à Jésus avant par quelqu'un d'autre, mais en tant que piège. Mais ici, c'est sincère et cet homme dit, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc il demande une bonne chose. Il ne demande pas la richesse, le pouvoir, la longue vie. Il ne demande pas qu'on le prenne en charge. Il dit, j'aimerais savoir comment je peux avoir, être sûr d'avoir la vie éternelle. Et d'autre part, comme Jésus l'avait regardé et puis l'a aimé, faut aussi conclure que ce n'est pas par méchanceté que Jésus lui aurait dit, il te manque une chose. Donc, il y a parfois des vérités qui sont dures à entendre. Mais elles sont pour notre bien lorsqu'elles viennent d'un ami. Des fois, les amis doivent nous dire des choses qui sont dures à entendre. Il y a un proverbe, le proverbe 27, verset 6, qui dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Vous savez, si votre médecin vous dit, après, lors d'une visite, il vous dit, écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle et j'ai une bonne nouvelle. Alors vous êtes là, puis vous le regardez. Il dit, la mauvaise nouvelle, c'est que je détecte un début de cancer. La bonne nouvelle, c'est que cette sorte de cancer, nous savons la traiter. Et nous pourrons nous occuper de cela. Eh bien, le médecin, il dit ça, ben, on l'accepte. Hein. On l'accepte, c'est pas ce que l'on voulait entendre, mais bon, c'est... On lui fait confiance. Et croyons que si Jésus dit à cet homme qu'il lui manque quelque chose, c'était pour son bien. Il ne faut pas mettre en doute les intentions du Seigneur. Et je dis en passant, dans nos prières aussi, et des fois on ne reçoit pas ce qu'on voudrait, parfois les choses ne se passent pas exactement comme on voudrait, et on a des pensées qui nous traversent l'esprit, mais ne mettons jamais en doute les bonnes intentions du Seigneur. On peut lui dire, Seigneur, je ne comprends pas. On peut dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance quand même. Hein? Ici, nous avons premièrement un jeune homme riche et sans faute. Il n'a rien à se reprocher. C'est un peu un contexte inhabituel. Cet homme, il n'est ni malade, ni déshérité. Il a tout ce qu'il lui faut. Et il vient, il accourt même. Donc, ce n'est pas seulement c'est par hasard qu'il a croisé Jésus. Mais il vient vers Jésus. Il le recherche. Il accourt vers Jésus. Et il se jette à genoux, un jeune homme riche. Et il nous dit, par ailleurs, dans l'évangile de Luc, il nous dit que c'était un chef. Et donc, il dit, voilà, cet homme qui est pas seulement riche, mais qui est d'un certain rang dans la société, et quand il dit chef, très certainement, c'était un chef de synagogue, donc un homme respecté, et le voilà qui vient et qui se jette à genoux devant Jésus sur le chemin. Et quand on se jette à genoux devant quelqu'un, c'est certainement parce qu'on veut implorer quelque chose. On a quelque chose à demander. Et cet homme demande. Et il ne demande pas ni sa guérison, ni, comme on a vu dimanche dernier, de recouvrir de la vue, ni d'autre chose. Il dit, je voudrais savoir comment hériter le royaume de Dieu. Cet homme, c'est-à-dire son comportement nous dit qu'il est préoccupé par quelque chose et qu'il n'arrive pas à trouver la réponse. Il est travaillé par quelque chose, par un souci, une situation de laquelle il ne voit aucune issue. Et il se comporte comme cela. Et la question est simple, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Cet homme est un homme, comme nous l'avons dit, un chef, certainement religieux, et qui peut dire, je garde tous les commandements de Moïse, je garde toute la loi, et il peut dire depuis ma jeunesse. Donc déjà c'est un jeune homme, mais il peut dire depuis mon enfance, je garde les commandements. Et c'est à Jésus qu'il le dit. Et nous voyons donc un jeune homme qui est riche déjà. Il faut certainement dire que ce n'est pas un publicain qui a volé ou quelque chose. C'est un homme qui a gardé les commandements. Et parmi les commandements qu'il dit avoir gardé, c'est de ne pas dérober. Donc il a dû hériter de ce bien. Ce n'est pas le cas de nous tous, mais il a hérité de ce bien. Il est jeune et riche. Mais il comprend le mot hériter. C'est quelque chose qu'on n'a pas, et puis par un lien filial, eh bien on acquiert quelque chose. Et il emploie justement ce mot-là pour dire à Jésus, il dit, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? C'est-à-dire, j'ai hérité de biens, j'ai reçu, mais mes parents ne peuvent pas me donner la vie éternelle. J'ai aucune assurance pour ce qui concerne la vie plus tard. Et peut-être que aussi son problème, c'est cette notion qu'il a qu'on lui a enseignée, c'est que si tu gardes les commandements, si tu les gardes fidèlement toute ta vie, eh bien tu iras au paradis. Parce que il parlait à n'importe qui est pratiquant dans quelque que soit la religion, il vous dira, si je fais les bonnes œuvres, si je fais ceci, eh bien Dieu me recevra. Mais il y a quelque chose, il a un doute à ce sujet. Il y a quelque chose qui ne le rassure pas. C'est un homme aussi qui, on doit respecter le fait qu'il n'est pas comme cet autre homme qui est devenu subitement riche, dont parle le Seigneur, et qui dit un soir, il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Et Dieu répond à cet homme insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? Cet homme est quand même sensible, il n'est pas en train de se dire, ouais, maintenant j'ai ce qu'il me faut, je suis à l'aise, je vais en jouir, du plaisir, c'est le moment. Non, il est conscient, il pense à l'au-delà, c'est peut-être rare chez ceux qui peuvent s'offrir tout ce qu'ils veulent, mais il se dit, mais comment est-ce que je peux être sûr de l'avoir ? Il a les moyens de s'offrir tout ce qu'il faut faire pour eux, mais il y a quelque part dans son cœur, il y a un doute. Et il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier, mais il y a juste une correction, la vie éternelle n'est pas quelque chose qu'on obtient après la mort, même si on est croyant. La vie éternelle, c'est quelque chose qu'on reçoit de suite, au moment où l'on croit, on met notre confiance en l'œuvre de Christ sur la croix. À l'instant où je crois que Jésus-Christ est réellement mort sur la croix pour mes péchés et qu'il a porté la condamnation qui reposait sur moi, il a porté lui-même, à cet instant même, eh bien, je reçois la vie éternelle. Le verset que nous connaissons très bien, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque, c'est déjà pas mal, croit et la vie éternelle, pas l'aura, ou augmente ses chances de l'avoir. Il dit, celui qui croit a la vie éternelle. Et même à la fin de l'évangile de Jean, Jean dit, je vous ai écrit tout cet évangile, et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. En son nom, vous l'ayez, pas que vous l'auriez ou que vous l'aurez ou autre chose, mais vous l'avez, que vous avez la vie éternelle en son nom. Donc la vie éternelle commence dès l'instant où, on emploie l'expression naître de nouveau, donc naître de nouveau, ça veut dire c'est un commencement, il y a une nouvelle vie, et cette nouvelle vie, c'est la vie éternelle que l'on vit. Donc, c'est pas le fait de garder les commandements qui vont permettre à cet homme, et il s'est rendu compte de cela, c'est pas parce qu'il avait gardé tous les commandements, mais c'est parce qu'il va croire. Je reviens au début de cette histoire, là, il nous dit, le jeune homme vient vers Jésus et lui dit, bon maître. Et puis Jésus, tout de suite, il réagit, et ça nous étonne aussi. Parce que bon, il est gentil, il est préoccupé, il a quelque chose, bien sûr qu'il faut qu'il trouve un moyen de s'adresser à Jésus. Et il dit, bon maître, et Jésus répond, mais qui est bon ? Personne n'est bon, il n'y a que Dieu qui est bon. C'est-à-dire, dans son zèle, et cet homme vient sincèrement, et Jésus, il le coupe dans son élan. Non, mais Jésus, vous savez, il a toujours, il gaspille jamais une parole. Et il dit, tu sais, une première chose, il n'y a que Dieu qui est bon. Et s'il n'y a que Dieu qui est bon, ça veut dire que toi, tu n'es pas bon et que personne d'autre n'est bon. Et ça, c'est la première notion quand on vient à Dieu. C'est la première chose de se rendre compte. Oui, peut-être que je suis bon par rapport à des autres dans notre société. Il y a toujours pire que nous. Mais ce n'est pas pour cela que je suis bon devant la loi. Sur mon permis, j'ai peut-être plus de points que quelqu'un d'autre, mais est-ce que pour cela que je suis meilleur? C'est-à-dire, nous pouvons être... lorsque nous parlons d'une personne dans la société qui est bonne, c'est relatif, c'est par rapport aux autres. Mais pour Dieu, Dieu est bon dans l'absolu. Hein? Sans défaut, sans exception, il est bon. Hein? Ensuite, cet homme arrive, je viens de dire que Jésus, cet homme arrive, il dit, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Et cet homme, justement, qui avait cette pensée, et il a du doute sur cette pensée, que garder les bonnes œuvres lui donnerait la vie éternelle, Jésus lui dit, écoute, garde les commandements. Il dit, mais Jésus, c'est pas une réponse, ça. Justement, il a un problème à ce niveau-là, et c'est ça que tu lui dis. Est-ce que garde les commandements? Et puis, Jésus lui cite 5 commandements, les commandements qui ont à faire avec les relations avec les êtres humains. Hein. Il ne touche pas les commandements qui ont à faire avec Dieu, et il ne touche pas le 10e commandement qui est difficile à mesurer. Hein. Tu ne convoiteras point le bien de ton prochain ou quelque chose. C'est difficile à cerner. Il prend ceux qui sont où on peut savoir. Hein. Quand on vole, on sait qu'on a volé. Quand on a menti, on sait qu'on a menti. Quand on a commis l'adultère, on sait qu'on l'a commis. Il a pris des choses claires. Il a dit voilà. Et cet homme dit non, mais moi, il n'y a pas aucun problème. Hein. J'ai cela, mais je n'ai pas l'assurance du salut. Je ne suis pas sûr. Et vous savez. Encore une fois, par rapport aux bonnes œuvres, hein, c'est, vous savez, la gendarmerie n'offre pas la Légion d'honneur ou un équivalent, un honneur équivalent à ceux qui ont bien conduit toute leur vie. Non, garder le code de la route, c'est normal. Ne pas garder certains aspects du code de la route, c'est répréhensible. Et dans l'esprit de Dieu, garder les commandements de Dieu, c'est normal. J'ai rien fait. Si j'ai gardé tous les commandements, et alors? Qu'est-ce que tu veux? C'est normal. Nous, on essaye de faire valoir à Dieu quelque chose qu'il trouve tout à fait normal. J'ai aimé mes parents. Et bien sûr, qu'est-ce que tu voulais faire? Mais rien de plus normal. J'ai jamais volé. Et alors? Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu voulais voler? J'ai jamais menti. Bien sûr. Tiens, tu aimes quand les autres te mentent? Non. C'est anormal. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te fasse une récompense? Je te donne une récompense? J'ai jamais pris la femme de quelqu'un d'autre. Et alors? Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Vous savez, c'est fou cette notion qu'on donne aux gens. Parce qu'ils ont été meilleurs que les autres, que Dieu devrait les récompenser. Tu dis non, mais c'est tout à fait normal. Et donc cet homme qui a gardé tous ses commandements, qui s'est efforcé d'être meilleur que les autres, certainement, hein, pas dans ce but-là, mais il était meilleur. Jésus dit, écoute, c'est un peu normal. Hein, qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Il te récompense pour ça. Tu as fait ton devoir. Et cet homme, il est riche, mais en même temps, il est dépourvu de quelque chose. Et de quelque chose qui est plus important que tout le reste. Cet homme est riche, mais il a un grand besoin. Et ce jeune homme est venu à Jésus parce qu'il ressentait ce grand besoin. Il pouvait s'offrir tout ce qu'il voulait dans ce bas monde, mais complètement démuni par rapport à la vie éternelle. Et il n'avait aucune réponse, il ne savait pas quoi dire. Si on lui avait dit, écoute, qu'est-ce que tu dirais si tout d'un coup tu te trouverais devant Dieu et te dis, pourquoi est-ce que je dois te recevoir dans mon ciel? Qu'est-ce que tu répondrais? Bon, j'ai déjà posé la question à certaines personnes. J'avais dit, mais si tout d'un coup ce soir tu te trouves devant Dieu et puis te dis, mais écoute, pourquoi est-ce que, donne-moi une bonne raison pour te recevoir dans le ciel. Qu'est-ce que tu dirais? Les gens ils te regardent et un peu et puis ils disent, j'ai pas volé, jamais volé une banque, heureusement, j'ai jamais fait ceci, jamais fait cela, j'ai travaillé, j'ai donné à manger à mes enfants, et alors les animaux ils font ça aussi, hein. Il dit, qu'est-ce que tu veux, dis-moi quelque chose, une raison pour laquelle je vais te récompenser. Et comment tu vas expliquer les fois où tu n'as pas été obéissant? Alors, et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, lorsqu'on s'arrête et si on réfléchit, mais on va être comme ce pauvre jeune homme. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume de Dieu? J'aimerais bien être au ciel. Peut-être aussi. Ce qui l'embêtait, c'est pas seulement que lui était gêné, mais c'est que s'il était chef de synagogue, eh bien certainement qu'il y en a d'autres qui venaient à lui, qui disaient « Rabbi, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Et lui, il donnait la réponse que tout le monde donne. Eh bien, écoute, garde les lois de Moïse et puis aime ton prochain comme toi-même. Et puis, il donnait les réponses classiques comme ça. Mais vous savez, mais peut-être qu'il les disait, et peut-être ça nous est arrivé aussi, hein, quelqu'un nous pose une question. Comment on répond? Eh bien, on le dit, et puis on dit ce que tout le monde dit. Et on le dit même avec une intonation qui donne un peu d'assurance. Mais finalement, au fond de nos cœurs, on sait que ça n'a pas marché pour moi, et je ne sais pas pourquoi ça marchait pour lui. On le fait tout le temps. Vous êtes enrhumé, il y a quelqu'un qui est enrhumé là. Vous êtes enrhumé, qu'est-ce que les gens vous disent? Prends du thé, prends du citron, prends de l'ail, prends de ceci. Et pour toi ça a marché? Non, je suis enrhumé. On le fait tout le temps. Et c'est une chose pour un petit rhume, pour un petit mal de tête, mais quand il s'agit de la vie éternelle. Et cet homme, ce jeune homme-là, il dit, mais c'est pas seulement que j'ai pas une réponse pour moi, mais je dis n'importe quoi aux autres. J'ai rien à leur dire. C'est un homme qui, il avait des biens matériels, mais des réponses, il n'en avait pas. Et donc cet homme vient et dit, Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous savez, cet homme n'a pas été vers les scribes, les pharisiens et les grands maîtres. Il n'a pas été se jeter aux pieds de Gamaliel, le grand docteur de l'époque. Il connaissait leur réponse. Il avait déjà entendu leur réponse. Il avait peut-être même essayé de mettre en pratique, mais c'était vide pour lui et c'était vide quand il le donnait aux autres. Et là, cet homme vient à Jésus. Il dit, là, je veux une réponse. Il s'est adressé à la bonne personne. Et la réponse qu'il a reçue de celui qu'il a appelé bon maître, alors que lui-même est appelé rabbi, c'est-à-dire maître, Il dit, il reçoit une réponse. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Vous dites, ouf, ben une seule seulement. Peut-être un soulagement. Il te manque quelque chose. Il dit, bah, écoute, tu ne m'as rien dit là. Moi, c'est pour ça que je suis venu. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Je savais que je n'avais pas. Vous savez, c'est extraordinaire comment Jésus se comporte avec certains. Certains qui sont vraiment... Ils n'ont rien. On pense à la femme prise dans l'acte adultère, ou on pense à l'homme aveugle qui mendie. On pense à dire, Jésus est là, il les soulève, il les encourage et tout ça. Et cet homme-là, on a l'impression qu'il est en train de... Il est le malmené. Et peut-être que vous aussi, parfois, vous avez l'impression que le Seigneur est en train de... Regarde, il y a un tel qui vient d'arriver à l'église et lui, ouais, il est content, et la joie du Seigneur et tout. Et moi, ben, j'ai les dents agacées. Et on est là, mais... Oh, le contexte, le Seigneur l'aima. Et nous pouvons être assurés aussi que le Seigneur nous aime. Et parfois, il vient et dit, non, mais je vais te dire la vérité. Et puis alors Jésus lui dit, il te manque une chose. Et ce verset 22, ça c'est seulement le début du verset, il te manque une chose. Et regardez l'ordonnance qu'il lui fait. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Demandez pas tant que ça, hein. Vous savez, c'est pas du tout ce que l'homme cherchait. C'était pas ça. Il n'était pas prêt pour ça. Hein, ça l'a... C'est resté dans la gorge, hein, comme on dit. Parce que lui, il s'attendait peut-être à ce que Jésus lui propose quelque chose à faire. Et vous savez, l'être humain, il est toujours prêt à faire quelque chose. Même quelque chose de difficile. Vous vous rappelez l'histoire de Naaman ? Élisée lui avait dit, écoute, va, plonge 7 fois dans le Jourdain, puis tu seras guéri. Il me prend pour n'importe quoi. En plus, c'est une rivière sale. Et puis, plonger 7 fois dans une rivière sale. Et je vais être purifié. Non, mais ça ne va pas, non. Et il rentrait fâché. Il a failli ne pas être guéri. Pourquoi ? Parce qu'il voulait quelque chose de difficile. Dis-moi de payer cher. Il était venu avec son chariot, il était rempli d'or. Hein, quand on commence à regarder ce qu'il avait, il avait de quoi payer, hein. Il était prêt à payer une forte somme, il était prêt à aller à la recherche de cette plante rare. Vous savez, de nos jours, c'est étonnant. Vous lisez les trucs sur Internet, tout ce que vous mangez n'est pas bon. La seule chose bonne, c'est quelque chose, c'est une plante rare qui se trouve de l'autre côté du globe et qui pousse à 3000 mètres. Ah, ça est la seule chose. Sinon, c'est... Non, mais... Mais on va le chercher. On paye cher, hein, en plus. On le fait. Et pour avoir... Ça, c'est juste pour la santé, pour la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? Et il y avait un serviteur de Naaman qui est venu le voir et dit, Naaman, attends, calme-toi un peu. Laisse-moi te dire quelque chose. Juste deux paroles. Il dit, si tu avais demandé de faire quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais fait? Il dit, oui. Mais tu demandes quelque chose de facile, fais-le. Vous savez, des fois, les gens de bar, hein, ils ont des bonnes idées. Hein. Et Naaman, il dit, bah, écoute, il n'y a rien à perdre. Hein, on va le faire. Il n'y a personne. Tu trouves un coin où il n'y a personne qui regarde, parce que je ne veux pas que les gens rigolent. Hein, et puis, on va le faire. Et il plonge une fois, deux fois, et puis, 6 fois. Ah, vas-y encore, il t'a dit 7. Vas-y, je ne vois pas de progrès. Hein. Non, vas-y. Et puis la 7e fois, et puis c'est bon. mais c'est, le Jourdain n'a pas guéri, c'est ni le Jourdain, ni la, les minéraux du Jourdain qui ont fait quelque chose. C'est le fait de faire ce que Dieu a dit. Cet homme était prêt à faire quelque chose. Mais là, Jésus demandait un peu trop. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et viens, suis-moi. Vous savez, Jésus n'est pas en train de suggérer un moyen de salut, là. Parce que c'est pas le fait de se défaire de ses biens et puis de prendre un vœu de pauvreté, hein, comme l'ordre des Dominicains. Hein, Dominique, là, qui a tout laissé, ils sont devenus l'ordre des prêcheurs. Ben, ce n'est pas ça qui sauve. Et heureusement que ce n'est pas ça qui sauve. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a de quoi vendre et laisser pour suivre le Seigneur. La majorité du monde n'a rien. Alors ces gens-là, comme ils n'ont rien à sacrifier, eh ben, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc c'est un salut pour les riches. Et Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu aime tous également et au même point et à l'extrême, et il offre un moyen de salut qui est à la portée de chacun, que ce soit l'enfant, que ce soit l'handicapé, que ce soit celui qui ne possède rien, comme celui qui possède tout, celui qui n'a pas, qui ne sait ni lire ni écrire, comme celui qui a des diplômes. Dis-moi, c'est un moyen de salut qui est pour tous. Et à cet homme-là, en fait, il n'est pas en train de lui donner un moyen de salut, parce que nulle part dans la Bible, parce qu'on sait que vendre ses biens et tout donner aux pauvres, c'est un moyen d'avoir la vie éternelle. Ce que Jésus est en train de souligner, c'est que quand il lui a dit « il te manque une chose », ça veut dire qu'il y a un obstacle dans ta vie. Il y a un obstacle qui t'empêche. Et la meilleure manière pour Jésus de faire ressortir cet obstacle, de le faire paraître, c'est de lui dire « Écoute, tu vends tout ce que tu as, tu le donnes aux pauvres et tu viens me suivre. » Parce que c'est là où l'homme a vraiment ressenti la force qu'avait le bien dans sa vie. L'obstacle dans sa vie, c'était son attachement à ses biens. Même s'il les avait reçus, il les avait hérités, hein, il n'avait rien fait pour les avoir. Mais c'est là où il se rend compte. Et Jésus voulait non pas l'empêcher d'aller au ciel, même si par la suite il va dire que c'est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Non pas parce que le fait d'être riche est un obstacle, mais c'est le fait d'être attaché à ce que l'argent pourvoit et représente, et surtout dans notre monde. Mais vous savez, c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour être attaché à l'argent. Hein. Moi, je connais des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui sont très attachés à l'argent. Ils pensent qu'à l'argent. Ah, si j'avais des sous. Ah, si j'avais des sous. Où est-ce que je peux trouver des sous? Ah, je vais faire ça pour faire des sous. Ah, n'importe. Et il y en a qui sont prêts à sacrifier n'importe quoi. Leur jeunesse, jusqu'à leur virginité, pour avoir de l'argent. Vous savez, on n'est pas obligé d'être riche pour être attaché à l'argent. Et quand on pense que mon bonheur, c'est là, si j'avais de l'argent, il faut que j'en trouve quelque part. Ou bien je le trouve, ou bien je marie quelqu'un qui en a, ou bien pendant un certain temps, je trafique un petit peu. J'étais dans le 93, hein, je rencontrais beaucoup de jeunes. Hein, c'était, pour certains, c'était dans leur tête, c'était le seul moyen d'avoir un petit capital pour pouvoir faire quelque chose. Le seul problème, c'est que une fois qu'on rentre dans l'engrenage, on a du mal à sortir vivant. Donc mais Jésus dit, il y a un obstacle. Et je peux être attaché à quelque chose. Jésus lui donne l'ordonnance amère, dit tu vends tout et tu le donnes aux pauvres et tu viens. Vous savez, Zachée, vous connaissez l'histoire de Zachée. Zachée était là, Jésus vient chez lui, et puis il y a un, quelque chose qui se passe dans son cœur. Et Zachée dit, écoute, tous ceux à qui j'ai volé, je lui rends 4 fois. Et puis après, je vais donner mes biens aux autres. Il dit, ce que je viens d'obtenir, ça me vaut plus que tout cela. J'ai cherché l'argent, je n'ai pas été heureux. Maintenant, j'ai trouvé Jésus, je suis heureux, je n'ai pas besoin de cela. Et certainement, il y a plein de monde dans le quartier qui était content qu'il avait rencontré Jésus. Hein. Mais la question, c'est, il a trouvé sa joie. Donc, c'est pas, et Jésus n'a pas dit, fais-le. Jésus a dit, ben, je vois que il y a quelque chose qui s'est passé. Hein, pour que quelqu'un qui a des biens, tout d'un coup, il n'est plus attaché, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est attaché à quelqu'un d'autre. L'obstacle, et c'est là la question c'est parfois dans notre vie, elle est sincère, je veux marcher avec le Seigneur, je veux avancer avec le Seigneur, et puis j'ai l'impression qu'à un certain moment, ça ne progresse plus, ça s'arrête, ça bouge plus, ça n'avance plus, et plus je fais des efforts, mais ça ne bouge pas. Hein, on voit quelqu'un dans l'église qui arrive, il découvre le Seigneur, et puis il a la joie du Seigneur, et puis ça part, et il dit, mais moi pourquoi ça? Pourtant au début c'était bien, mais tout d'un coup ça s'arrête. Et on a vous savez, quand ça s'arrête, c'est qu'il y a un obstacle. Hein. Il ne faut pas aller chercher loin. Et si on va voir Jésus, on lui fait son numéro, eh bien il va dire, il te manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manque ? Eh bien, ici, pour cet homme, et on ne va pas lui jeter des pierres, mais son obstacle, c'était cet attachement qu'il avait au bien matériel, mais pour chacun d'entre nous, un obstacle peut être autre chose. Hein. Pour un, ça peut être le contentement avec le statu quo. Puis moi, j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai le pardon de mes péchés, je sais que je vais au ciel, je ne demande pas plus. Voilà, je ne veux pas plus. Ben, c'est sûr que à partir du moment que je pense comme ça, je ne fais plus de progrès. Pour un autre, ça peut être un attachement à quelque chose ou à quelqu'un qu'on ne veut pas lâcher. À tout prix, il me faut ça. Seigneur, donne-moi, je voudrais ça, mais je suis à tout prix, il me faut ça. Il dit, t'es vraiment, il y a quelque chose là qui prend toute ton attention, qui sur lequel tu focalises toute ton attention, et donc moi je suis en deuxième. Et tu dis, il me faut ça. Seigneur, si je pouvais marier un tel. Et à tout prix, il me le faut. Ou bien, c'est un diplôme, ou il me faudrait ceci, cela. On a des choses auxquelles on s'attache, et on dit, Seigneur, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et puis, il dit, mais c'est un obstacle à la croissance. Il y a un autre obstacle qui arrive aussi parfois dans nos vies chrétiennes, c'est parfois le refus de pardonner à quelqu'un. Ce que je refuse de lui pardonner. Bon, ça ne veut pas dire que l'autre, il n'a pas été fautif, hein. Mais, non, je ne pourrais jamais lui pardonner. Et le Seigneur dit, mais écoute, comment tu n'arrives pas à le pardonner? Ah non, tu ne sais pas combien j'ai souffert et comment le tort il m'a fait. Et oui, mais moi, je t'ai pardonné, non? Ah oui, mais pour toi, c'est normal. Ah! Il dit, pardonnez les uns aux autres comme je vous ai pardonné, il dit. Oui, je sais que je devrais le pardonner, mais bon, je ne suis pas prêt. Ah, écoute, tu ne vas pas pouvoir avancer. C'est tout. Il faut que tu règles ça. Mais Seigneur, je vais faire le tour et contourner et puis continuer. Il dit, non, si on règle ça, on n'avance pas. Et c'est ça avec le Seigneur, il a un trajet pour nous Et il y a des carrefours, il y a des carrefours, il faut traiter des choses. Et tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux crier, tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux. Et ce pauvre jeune homme, il a fait de tout ce qui lui venait à l'esprit, tout ce qu'on lui suggérait. Mais il dit, tant que ça, c'est pas réglé, tu ne pourras pas avancer. Et c'est pour ça que dans nos vies chrétiennes, parfois, il y a un plateau. Ça bloque. Et après 40 ans de ministère, je l'ai vu combien de fois, hein, au point où je vois quelqu'un qui avançait très bien, puis tout d'un coup, ça s'arrête. Et après un moment, je dis, mais il y a un obstacle. Et la seule chose à faire, c'est d'aller voir cette personne et commencer à voir avec elle, s'il n'y en a pas une idée, de ce que pourrait être l'obstacle. Il y a un péché qui n'est pas confessé. Il y a quelque chose qui n'est pas mis en règle. Il y a peut-être quelqu'un nous a trahi. Et je suis dans l'impossibilité de... Il dit, non, il faut régler ça. Je me rappelle une jeune fille qui avait subi l'abus sexuel de la part de son père. Et elle m'a dit, je ne pourrai jamais pardonner. À un moment, son père a le cancer il allait partir. Je lui ai dit, tu sais, tu devrais aller... pardonner ton père. Elle dit, comment? J'ai dit, fais-moi confiance. C'est pour ton bien. Peut-être lui, il va même pas admettre. Et lui, c'est pas grave. Mais pour toi, ce sera une libération. Vas-y. Elle est allée. Elle dit, Steve, d'accord, je vais le faire. Ça va être très dur. Elle dit, dis-moi quand tu vas, je prierai pour toi. Elle a été. Elle a dit, papa, je te pardonne. Lui, il a fait comme si rien n'était. Il est mort 2 jours plus tard. Mais elle m'a appelé, elle m'a dit, Steve, merci. Parce que moi, ça, je ne le porte plus. Et vous savez, des fois, il y a des obstacles qui sont là. Ça ne veut pas dire que c'est l'autre, il n'est pas coupable, ni rien du tout. Je le pardonne par rapport à moi, mais moi, après, lui... Il a à faire ce qu'il a à faire, mais moi, je suis libre, je continue. Je ne veux pas d'obstacle dans ma vie. Et il y a d'autres formes d'obstacles aussi. Parfois, c'est notre cheminement a des entraves parce que nous avons des idées dans notre tête. Hein, les obstacles sont d'ordre... intellectuel ou philosophique, j'ai toujours pensé ça, j'ai du mal à lâcher ça, et parce que je veux pas lâcher cette pensée là, cette manière de voir, eh bien je reste bloqué. Et il y en a qui n'avancent pas dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que il y a un truc, c'est un problème intellectuel, c'est un problème philosophique, c'est un problème non, je suis pas, il y a un truc dans la Bible, je suis pas d'accord, et eh ben ça bloque. Et le Seigneur dirait, si je viens le voir, je lui dis, écoute, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, pour régler l'obstacle. Quelque part, tu n'as pas besoin de comprendre, mais tu as besoin de dire Dieu, hein, comme Job a dit, je ne comprends rien, je ne sais pas, et même si tu me tues, je croirai en toi. Je te fais confiance. Et si vous avez le sentiment de ne pas avancer dans votre vie chrétienne, peut-être qu'il faudrait faire comme ce jeune homme. C'est aller se jeter à genoux devant le Seigneur et lui dire, que dois-je faire pour avancer dans ma vie chrétienne, pour avoir la vie éternelle? Quel est l'obstacle? Peut-être que je sais déjà quel est l'obstacle, ou peut-être que je ne sais pas. La question, c'est de voir avec lui. Dire, Seigneur, moi je veux avancer. Et je ne veux pas que ce que quelqu'un a fait contre moi m'empêche, moi, d'avancer. Je ne veux pas que ce que quelqu'un pense de moi m'empêche, moi, de pouvoir avancer. je veux rompre toutes les chaînes, libérer de toutes choses, et j'avance. Toi, tu t'occupes des situations. Tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Moi, je veux être libéré de tout cela et je veux avancer avec toi. Vous savez, sinon, si vous ne le faites pas, eh bien, ce sera comme ce jeune homme. Eh bien, il partit tout triste. Et il partit tout triste. Après, vous savez comment c'est, les êtres humains, après, on met la faute sur Dieu. On dit, oh, j'ai été le voir. Et puis, il ne m'a rien fait. Moi, ça y est, c'est terminé. Mais j'en sais rien avec ce jeune homme. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après. Mais là, Jésus, en fait, lui donnait la réponse. Il dit, écoute, il y a un obstacle dans ta vie. Et tant que cet obstacle sera là, tu ne pourras pas avancer. Et nous avons besoin de faire cette confiance au Seigneur, de venir au Seigneur, dire, Seigneur, il dit, écoutez, Jésus disait, Dieu disait à Israël, il disait, écoutez, c'est pas la peine d'offrir des sacrifices et de plaider, puis de jeûner et tout ça. Il dit, réglez les problèmes. Après, venez me voir. Et vous savez, et si Jésus lui a dit cela, c'est parce que il aurait été en bien meilleur état. Il lui a dit, vends tout ça et viens, suis-moi. Et certainement que Jésus avait quelque chose d'extraordinaire pour lui. Il aurait été bien plus heureux. Et vous savez, c'est toujours, peu importe, même si c'est l'obstacle, si c'est moi qui l'ai créé, même si c'est moi qui l'ai provoqué, c'est moi qui me suis mis dans cette situation, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est que je vienne au Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux régler cet obstacle parce que je veux avancer avec toi. Je veux avancer dans la vie. Et j'en ai assez de souffrir, j'en ai assez d'être frustré, j'en ai assez d'avoir le diable qui me dit, écoute, toi, tu es bon à rien, hein, tu as gâché ta situation, Dieu t'aime plus, Dieu ne peut rien faire avec toi. Il dit, j'en ai assez d'entendre tout ça. Je veux te suivre, Seigneur. Et le Seigneur est prêt à pardonner, à mettre tout ça en route et puis à partir. Pas besoin de faire des grandes confessions publiques, mais c'est de régler ça avec lui. Et le Seigneur veut et pourra. Et Jésus, cet homme-là, il a tout, quand il l'a vu, il l'a regardé. Et quand il l'a regardé, il a tout vu. Et il a dit, il l'aima. Et chacun d'entre nous, il peut nous regarder, il sait tout sur nous, comme il a été dit tout à l'heure, il sait tout sur nous. Et il nous regarde, mais il nous aime. Et il veut nous aider, il veut notre bien. Nous allons prendre quelques moments de silence et que chacun puisse déjà voir ce que le Seigneur aurait pu, l'Esprit de Dieu aurait pu amener à son esprit en entendant les paroles et ce qu'il aurait pu dire à l'un et l'autre et que vous pouvez dire au Seigneur, dis Seigneur, voilà ça, je vais le régler, je veux le régler, je vais prendre le temps de le faire et je ne veux pas repartir tout triste. Je veux repartir la tête levée. Que chacun déjà prie ses prières silencieuses dans son cœur, et puis ensuite je prierai.